France Culture.
Toujours plus d'écrans, toujours moins de livres. Il ne reste plus que 56% de lecteurs réguliers aujourd'hui en France, selon le dernier baromètre du Centre National du Livre. Le chiffre le plus bas depuis 10 ans. Explication dans un instant. Dernier acte dans le procès de Nicolas Sarkozy, les plaidoiries des avocats de l'ancien président qui demandent en ce moment la relaxe de leur client contre lequel l'accusation avait requis 7 ans de prison ferme. L'île d'Oléron remporte son bras de fer judiciaire contre Airbnb. La plateforme a été condamnée en appel à verser près de 9 millions d'euros à la communauté de communes de l'île. Des soldats chinois en Ukraine aux côtés des Russes, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui l'affirme. Vidéo à l'appui, Faustin Calmel nous appellera de Kiev. On s'en doutait un peu, mais les chiffres sont là. Les Français lisent de moins en moins, selon le dernier baromètre du Centre National du Livre. Ils ne sont plus que 56% à se déclarer lecteurs réguliers, une baisse de 5 points en un an. Face à la concurrence des écrans, le phénomène est global, puisque le temps de lecture diminue dans toutes les tranches d'âge et dans toutes les catégories socio-professionnelles. C'est l'Institut Ipsos qui a réalisé ce baromètre sur les Français et la lecture auprès d'un échantillon de 1000 personnes. Elisa Savat, bonsoir.
Bonsoir.
56% des lecteurs, il s'agit du niveau le plus bas depuis 10 ans.
Oui, et dévorer les pages d'un livre n'est plus aussi fréquent qu'avant. Et ceux qui décrochent le plus ne sont pas forcément les jeunes, aidés en partie et surtout grâce à l'école. Ce sont les 50-64 ans avec moins 13 points par rapport à 2023. La lecture chez les Français interrogés baisse et se diversifie de moins en moins. 6 genres par an seulement en moyenne. Le roman, lui, fait de la résistance. C'est le genre littéraire le plus lu. Loin devant les BD, mangas ou livres d'histoire. Si les librairies avaient connu un regain des visiteurs et des ventes à la sortie de la crise Covid, c'est fini. Les lecteurs se tournent maintenant davantage vers les grandes surfaces culturelles. Autre constat, les Français sont de moins en moins concentrés lorsqu'ils lisent un livre. Ils sont nombreux à faire autre chose en même temps, comme envoyer des messages ou surfer sur les réseaux sociaux.
Et les Français lisent aussi moins sur le format papier, Elisa, car la lecture au format numérique augmente, particulièrement chez les 15-24 ans.
Tout à fait, les liseuses ont la cote pour leur côté pratique, mais les écrans restent tout de même le principal frein à la lecture. Les personnes interrogées restent en moyenne plus de 3 heures par jour sur les écrans en dehors du travail, contre une demi-heure de lecture par jour. C'est même plus de 5 heures d'écran chez les jeunes, principalement sur Instagram ou TikTok. Mais les réseaux sociaux peuvent aussi inciter à la lecture. 91% des 15-24 ans estiment qu'ils sont influencés par des recommandations en provenance des réseaux sociaux. Un exemple, la trilogie de Freda McFadden, La femme de ménage, est le roman le plus vendu en France cette année, 2 millions d'exemplaires. Et ce succès, il est dû en grande partie à un bouche-à-oreille numérique sur TikTok.
Elisa Savat, merci. Vous pouvez retrouver sur le site du Centre National du Livre les résultats complets de ce baromètre sur les Français et la lecture. C'est le dernier temps fort du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du présumé financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Les 4 avocats de l'ancien président sont en train de plaider devant le tribunal correctionnel de Paris. Des plaidoiries qui constituent le point final des 3 mois d'audience en attendant le jugement que le tribunal rendra dans plusieurs mois. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Vous suivez ce procès pour France Culture. Sans surprise, ces plaidoiries convergent toutes vers une demande de relax. Alors que le parquet national financier avait requis 7 ans d'emprisonnement et 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Nicolas Sarkozy.
Oui, une salle d'audience comble et un Nicolas Sarkozy qui apparaît tendu, entouré de son épouse, de deux de ses fils et de son frère Guillaume, avant d'aller s'asseoir, jambes croisées sur les chaises réservées aux prévenus. 4 avocats pour le défendre, ils sont déjà 3 à être intervenus. Tristan Gauthier pour dire sa conviction profonde que Nicolas Sarkozy est innocent. Les investigations n'ont pas trouvé l'argent libyen du prétendu pacte de corruption, poursuit le jeune avocat. L'argent de la corruption, ça ne peut pas disparaître comme ça. Un tableau de chiffres s'étale sur l'écran de la salle d'audience qui trace les canaux de financement dénoncés par l'accusation, des fonds au seul usage personnel des intermédiaires, en premier lieu Ziad Takieddine soutient la défense. Ziad Takieddine, grand absent de ce procès, réfugié depuis des années au Liban, aucun flux entrant dans la campagne de Nicolas Sarkozy, assure Tristan Gauthier. Avant lui, Jean-Michel Darrois, le doyen de l'équipe, a dénoncé les faiblesses de l'instruction, a interrogé la compétence du tribunal pour juger un ancien président dont il va longuement détailler les grandes décisions en matière de droits de l'homme. Propos et voix monocordes, y compris lorsqu'il tacle l'accusation. Pourquoi le parquet a-t-il été si violent, si éloigné des exigences de sa mission? Il ne s'adressait pas à vous, mais au tribunal de l'opinion, pour salir Nicolas Sarkozy, entretenir l'image d'un homme cupide, un voyou. Et c'est maintenant à Christophe Ingrin qu'il appartient de fermer le banc pour conclure à la relaxe sur tous les plans de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui aura ensuite, comme les autres prévenus, la parole en dernier.
Florence Turme en direct du tribunal judiciaire de Paris avec les moyens techniques de Martin Troadec. Un homme qui avait menacé la présidente du tribunal qui a condamné Marine Le Pen a été interpellé aujourd'hui à la gare Rennes-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Âgé de 76 ans, il avait insulté et menacé de mort la magistrate sur le réseau social X. Il a été placé en garde à vue pour ses menaces de mort et pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Le Parlement devrait adopter d'ici ce soir le texte visant à restreindre le droit du sol à Mayotte. La proposition de loi portée par les Républicains a déjà été votée au Sénat. C'est désormais à l'Assemblée de se prononcer, a priori une formalité, d'autant plus que la version finale du texte est soutenue par le gouvernement et par le Rassemblement national. Durement éprouvée par le cyclone Chido, Mayotte subit une forte pression migratoire, d'où cette loi qui a pour objectif de limiter l'immigration clandestine dans l'archipel. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
La gauche dénonce un texte qui remettrait en cause le principe du droit du sol.
Oui, les députés de gauche estiment que la restriction du droit du sol introduite par cette loi entrouvrirait la porte à la suppression du droit du sol souhaitée par le Rassemblement national. C'est pourquoi ils soutenaient une motion de rejet préalable déposée par la France Insoumise, motion qui a été rejetée il y a quelques minutes à une assez large majorité. Car vous le disiez, cette loi devrait être adoptée sans difficulté. Elle est soutenue par les députés du socle commun, droite et centre, ainsi que par les députés du Rassemblement national. Ceux-ci estiment que cette loi n'est pas parfaite, mais qu'elle va dans le bon sens. Le rapporteur du texte, le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin, a expliqué que sa loi était justifiée par le caractère exceptionnel de la situation dans laquelle se trouve l'île de Mayotte, avec un tiers de la population composée d'immigrés en situation irrégulière. Les trois quarts des naissances enregistrées à l'hôpital de Mamoudzou, a-t-il encore expliqué, sont le fait de mères en situation irrégulière. Et cette démographie galopante fait que les enfants mahorais n'ont plus la possibilité de suivre une scolarité normale. Un enseignant fait cours à une classe le matin et à une autre classe l'après-midi. Cette loi vise donc à restreindre l'accès à la nationalité française pour tenter de réduire la pression migratoire. Avec ce texte, pour qu'un enfant né à Mayotte accède à la nationalité française à l'âge de 18 ans, il faudra qu'il prouve que ses deux parents résidaient depuis au moins un an dans l'archipel mahorais au moment de sa naissance. Si cette loi déroge au principe d'égalité garanti par la Constitution, le Conseil constitutionnel avait estimé dans une décision en 2018 que face à une situation exceptionnelle, le législateur pouvait déroger au principe d'égalité dans une certaine mesure. Il apparaît cependant difficile d'anticiper les effets concrets que pourrait avoir cette restriction du droit du sol. Et ça d'autant que les flux migratoires en direction de Mayotte sont sans doute plus alimentés par l'écart de richesse avec les Comores voisines que par la volonté des migrants d'offrir à leurs enfants la nationalité française.
Éclairage signé Stéphane Robert. Il faut réformer l'aide sociale à l'enfance, un système qui est aujourd'hui au bord du gouffre. La commission d'enquête de l'Assemblée lance aujourd'hui ce qu'elle appelle un cri d'alarme dans un rapport qui compile les dysfonctionnements du dispositif. L'aide sociale à l'enfance prend en charge environ 400 000 jeunes, selon les derniers chiffres disponibles. Une cinquantaine d'anciens enfants placés ont d'ailleurs manifesté devant l'Assemblée pour que l'État reconnaisse ses défaillances et les violences institutionnelles qu'ils ont subies. Parmi les préconisations du rapport, il y a l'accompagnement jusqu'à 25 ans de ces jeunes. C'est un reportage d'Anne Fauquemberg.
Les anciens enfants placés sont nombreux à raconter les difficultés qu'ils ont pu traverser quand les dispositifs s'arrêtent du jour au lendemain. La militante Elina Dumont, fondatrice de l'association des Oubliés de la République, témoigne.
J'étais pupille de l'État et à 18 ans, je me suis retrouvée à la rue le jour de mon anniversaire et ce pendant 15 ans. Ça, c'est plus possible. Quand on a vécu autant de traumatismes, ça reste à vie. Pour vous dire, je ne suis jamais tombée amoureuse et je ne tomberai jamais amoureuse. À l'âge de 20 ans, je savais que je n'aurais jamais d'enfant.
Lors de ces années de rue, Elina Dumont a été en situation de prostitution notamment. Alors, depuis 2022, l'accompagnement est obligatoire jusqu'à 21 ans pour les jeunes sans ressources, avec des contrats dits « jeunes majeurs ». Mais ils sont appliqués de façon inégale selon les départements. Jean-Baptiste Pejon est conseiller régional en Île-de-France et aussi un ancien enfant placé.
On n'a pas une attribution obligatoire pour ces contrats jeunes majeurs. Il faut les rendre obligatoires. Des jeunes, aujourd'hui, y compris à 21 ans, ils n'auront pas forcément fini leur parcours scolaire s'ils veulent faire des études. Ils sont plutôt poussés à travailler rapidement, à être indépendants rapidement. Moi, c'était mon cas, j'ai dû faire un CAP plutôt qu'un baccalauréat. Parce que quand ils veulent faire des études, on leur dit bah non, c'est pas possible. Et aujourd'hui, vivre sans accompagnement financier, sans solution, c'est impossible de coupler ça avec des études.
En termes de budget, cet accompagnement jusqu'à 25 ans se chiffrerait à 2 milliards d'euros, selon le collectif Cause Majeure qui défend cette extension du dispositif. Un montant qui doit avant tout être pensé comme un investissement et non comme une dépense, précise le rapport de la commission d'enquête.
Anne Fauquemberg, merci. La commission parlementaire qui préconise aussi une loi de programmation pour la protection de l'enfance et une commission de réparation. Quand l'île d'Oléron inflige un revers judiciaire à Airbnb, la cour d'appel de Poitiers a condamné aujourd'hui la plateforme à verser 8,6 millions d'euros à la communauté de communes de l'île. Elle a considérablement alourdi le jugement de première instance. Airbnb, géant mondial de la location touristique, a été reconnu coupable de manquements graves dans la collecte de la taxe de séjour. Flore Caron, bonsoir.
Bonsoir.
Il s'agit là d'une décision historique.
C'était un peu David contre Goliath, une petite commune de 22 000 habitants contre un géant du tourisme, condamné en première instance à 30 000 euros pour l'année 2021, puis 1 300 000 pour l'année 2022. Airbnb perd une nouvelle fois la bataille judiciaire, mais cette fois-ci avec une sanction quasi 7 fois supérieure. C'est une victoire historique, nous dit Jonathan Belaïch, avocat de la communauté de communes de l'île d'Oléron.
Non seulement c'est historique parce que le montant est historique, on parle de plusieurs millions d'euros d'amende. C'est pas commun et en plus de ça, c'est au profit d'une petite collectivité contre un géant mondial du tourisme.
Une victoire remportée au terme d'un long processus, plus de 5 années de démarches menées par la collectivité, amiable d'abord puis judiciaire pour récupérer les données et puis le reversement de milliers de taxes de séjour.
Ils ont essayé de tout faire pour remettre en cause la loi et le système juridique et à chaque fois, il faut passer un temps colossal pour se défendre. Donc il faut des moyens financiers, de l'énergie, des moyens humains et une capacité à être capable de résister.
Actuellement, plusieurs autres procédures sont en cours contre Airbnb, régulièrement condamnées pour des problématiques qui concernent ces plateformes, nous dit l'avocat. Des collectifs d'hôteliers, d'autres collectivités aussi, il espère que ces décisions pourront impulser un effet dissuasif.
Je pense que le fait qu'il y ait des condamnations judiciaires, ça rend beaucoup moins rentable l'appréhension du risque juridique.
De son côté, Airbnb a pris acte de cette décision judiciaire et déclare étudier les recours possibles, ce qui pourrait rebattre une nouvelle fois les cartes de ce feuilleton judiciaire.
Merci Flore Caron pour ces explications. Il y a un an, l'Europe dressait la liste de ses dépendances étrangères dans le domaine des métaux critiques avec une loi dédiée. Et aujourd'hui, une première riposte effective a été inaugurée. Le groupe belge Solvay vient de lancer sur son usine de La Rochelle une nouvelle ligne de transformation de terres rares, des métaux plutôt abondants dans la nature mais que l'Europe n'extrait pas ou peu et qu'elle ne transformait pas non plus jusqu'ici. Cette usine de La Rochelle doit justement répondre à des besoins fondamentaux pour le continent dans le domaine des énergies renouvelables ou bien de la défense. C'est un reportage sur place de Valentin Grille.
Au bout d'une succession de cylindres de stockage et de salles de machines, un grand four tourne sur lui-même. Il travaille le produit fini de l'usine, des poudres oxydées de terres rares, ces 17 métaux critiques ciblés par l'Union européenne. Delphine Loubière est la responsable hygiène et sécurité du site Solvay à La Rochelle.
Le four que vous voyez, c'est un four tournant, sert à calciner les précipités de terres rares qui ont été obtenues précédemment. Donc on est vraiment sur la phase finale de notre process, où on va obtenir des oxydes de terres rares qu'on va broyer et qu'on va conditionner.
Pour parvenir à ce résultat, les transformations chimiques s'enchaînent. Les minerais ou les objets issus du recyclage sont d'abord attaqués à l'acide avant d'être broyés. Passés à l'état liquide, ils serpentent alors dans une immense succession de tubes et de décoctions. Le but est alors de trier les métaux entre eux, comme l'explique Sébastien Scarcy, directeur de l'usine.
On est les seuls hors Chine à avoir des installations de cette taille-là. On a plus de 1500 étages de séparation. C'est comme une colonne à distiller, mais à l'horizontale. On a plus de 1500 étages et on peut séparer toutes les 17 terres rares présentes.
La méthode est vieille de 75 ans, mais les productions, elles, évoluent. Car sur sa nouvelle ligne de production, Solvay s'intéresse surtout au néodyme et au praséodyme, deux métaux essentiels à la production d'aimants dont ont besoin les éoliennes, les voitures électriques ou encore les industries de défense.
Il était essentiel pour nous, qui étions principalement axés sur la dépollution automobile, d'aller vers ce marché-là qui va représenter 50% du besoin de terres rares demain dans le monde.
Solvay veut monter en cadence pour répondre à 30% des besoins européens d'ici 2030. Ce site est donc essentiel car Bruxelles s'est fixé pour objectif de relocaliser 40% de sa transformation de terres rares en tout. À l'heure actuelle, plus de 90% de cette transformation est assurée par la Chine.
Valentin Gris pour ce reportage à l'usine Solvay de La Rochelle. La liste et la hiérarchie des syndicats représentatifs restent inchangées. La direction du travail a présenté cet après-midi les chiffres de l'audience des organisations syndicales et des organisations d'employeurs. La CFDT garde la première place au classement des syndicats du privé, suivi par la CGT et FO. L'audience de la CFDT s'élève à 26,5% devant la CGT, qui se place donc deuxième avec un peu plus de 22%. Force ouvrière, troisième, obtient près de 15%. Des chiffres en très légère baisse pour ces trois premiers syndicats qui s'expliquent par la légère progression des suivants, en l'occurrence la CFE-CGC et la CFTC. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky demande des explications à la Chine, l'armée ukrainienne qui a capturé deux soldats présentés comme chinois, des hommes combattant aux côtés des Russes dans la région de Donetsk. Kiev a même diffusé une vidéo montrant un de ces hommes dont les données personnelles auraient été récupérées. Faustine Calmel est notre envoyée spéciale en Ukraine.
Sur ces images, on voit l'un de ces jeunes soldats en treillis, les mains liées, avec des gestes entrecoupés de quelques mots de chinois. Il tente de décrire un combat, évoque aussi en anglais un commandant dont il semble mimer la blessure. Il a été capturé avec un de ses camarades parmi un groupe de 6 sur le front du Donbass, où les combats sont actuellement des plus intenses. La présence de ces citoyens chinois aux côtés de l'armée russe, une première depuis le début de la guerre il y a 3 ans, remet en cause la position déclarée de la Chine en faveur de la paix, estime le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Kiev a d'ailleurs convoqué le chargé d'affaires de Pékin en Ukraine pour réclamer des explications. Et le président Volodymyr Zelensky appelle à une réaction de ses alliés.
Les États-Unis doivent être plus attentifs à ce qu'il se passe en ce moment. C'est encore un pays qui soutient militairement l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est un de plus après l'Iran et les militaires de Corée du Nord. Mais il y a une différence. Les Nord-Coréens se battaient contre nous sur le front de Koursk. Les Chinois font la guerre sur le territoire ukrainien.
Car si c'est la première fois que des soldats chinois sont capturés aux côtés des Russes, on sait effectivement en revanche que plusieurs milliers de militaires nord-coréens sont bien engagés avec Moscou, et notamment dans cette région russe de Koursk où l'armée ukrainienne a lancé une offensive l'été dernier, mais s'est largement repliée depuis.
Faustine Calmel avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro en Ukraine. Emmanuel Macron est actuellement dans le Sinaï égyptien, à quelques dizaines de kilomètres à peine de la bande de Gaza, l'occasion pour le président français de condamner les attaques contre les humanitaires et les secouristes présents dans l'enclave palestinienne. Emmanuel Macron qui a eu des mots très durs pour dénoncer les incessants bombardements israéliens sur Gaza.
Tout est refusé. Et on l'a vu ce matin aux côtés d'enfants, de femmes, de personnes âgées qui étaient malades, blessées. On le voit quand on parle aux humanitaires, la situation aujourd'hui est intenable et elle n'a jamais été aussi grave. Parce qu'il n'y a jamais eu une période aussi longue de blocage complet, à la fois de l'aide humanitaire, de l'aide en termes de médicaments, du soin et des sorties aussi des personnes les plus fragiles. Il n'y a jamais eu une telle situation et on est à 2-3 semaines de la rupture en termes d'eau potable. On est au-delà du strict minimum pour vivre, mais de ce qui n'a jamais manqué jusque-là alors que tout manquait déjà. La réalité, c'est que vous avez 2 millions de personnes qui sont enfermées. 2 millions. Après des mois et des mois de bombardement d'une guerre terrible, des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui sont mutilés sans famille. C'est ça dont on parle quand on parle de Gaza. C'est pas d'un projet immobilier.
Emmanuel Macron qui termine dans le Sinaï sa visite officielle en Égypte. À Paris, les députés de la France insoumise ont brandi des images d'enfants palestiniens cet après-midi à l'Assemblée lors de la séance des questions au gouvernement. Une initiative qui a déclenché les huées des élus du Rassemblement national et de LR. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, est intervenue pour rappeler qu'il était interdit de brandir des affiches dans l'hémicycle. Yaël Braun-Pivet qui va saisir demain le bureau de l'Assemblée à propos de cet incident. Et puis je reviens un instant sur ce texte visant à restreindre le droit du sol à Mayotte. Eh bien ce texte vient d'être adopté définitivement par le Parlement après un ultime vote de l'Assemblée avec 339 voix pour et 174 contre. Le temps demain ressemblera à celui d'aujourd'hui. Soleil et douceur au programme un peu partout, sauf sur le sud-est où les nuages domineront de la Provence aux Alpes avec un risque d'averse. Pluie possible également sur les Pyrénées. Les températures minimales resteront fraîches avec des gelées sur la moitié est. L'après-midi, le thermomètre remonte sensiblement entre 12 et 25 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Marie-Claire Oumabadi.